La Barge Russe. Tous les jours, à 14h, avec Helmut Schwartz et Johnny Tufbeck. Barge Russe 531, extra-humain dans le froid des ténèbres. Donc la menace nucléaire de la guerre, sur fond géopolitique, et le néolibéralisme transnational en guise de champignon atomique, déjà propagé sur la planète Terre, pourrait accélérer les craintes au biosystème et conduire l'eschatologie apocalyptiquement veuve de cohérence, de relation, à suivre l'ordre du plan de pollution grandissante, de pluie cancérigène, voire ultra-cancérigène, d'alimentation trafiquée. C'est à travers la raison de la réalité visible que l'être humain comprend l'incompréhensible de sa destinée. Il se rend compte, mine de rien, il lui arrive des trucs qu'il n'avait pas prévus, la raison va l'emporter sur ses croyances qui ne se basaient sur aucune raison, qui n'étaient pas raisonnables, voire même illogiques. Illogique qui est peut-être un maître mot des sociétés actuelles. Donc, avec une guerre nucléaire, l'humanité à qui on a laissé suffisamment de temps pour se reprendre, voire comprendre, se verrait d'un souffle calciné par la chaleur et le rayonnement d'une bombe de milliers de mégatonnes, 5 000, 15 000, qui sont nettement supérieurs aux bombes nucléaires déjà lancées au Japon en 1945. Elle, l'humanité, ou plutôt nous, devrais-je dire, arriveront enfin à éteindre la vie ainsi que ses origines. Alors que l'humain, maître de la vie et de la mort, s'est approprié la création, se fige dans la perfection des normes, est en mesure de tout détruire, notamment ses découvertes. Mais l'humanité, l'être humain, n'admettrait pas, au bon vouloir de quelconque dieu, voire du dieu unique, pour assister à un refroidissement du sol qu'il n'a pas prévu. D'où le besoin d'une guerre nucléaire pour atomiser tout ça et aller bien plus vite que c'est prévu. Au lieu d'attendre aller encore quelques dizaines d'années, voire un siècle, eh bien, il faudrait le faire vite fait avant, quoi. Mais bon, ça, c'est un point de vue, mais c'est même pas un point de vue, c'est juste une pensée. Des nuages de poussière dans l'atmosphère produiraient un réchauffement avec la lumière du soleil bloquée en haute altitude, inversant les températures par énergie infrarouge, d'où le refroidissement réel de la surface. Donc ça, je parlais de le truc après la guerre nucléaire ou ce qui va se passer si on ne le fait pas ? Eh bien, c'est ce qui va se passer si on ne le fait pas. C'est aussi ce que je disais, c'est le néolibéralisme transnational. Ça, c'est le champignon atomique. En fait, on a déjà lancé la bombe. Mais si on veut que ça aille plus vite, avec la bombe nucléaire, ça fera pareil. Ça ira plus vite. Sauf qu'il y aura des morts bien plus rapidement. Et d'un coup, quoi. Donc, je suis retombé sur un livre que j'avais acheté en vacances. Je sais plus, c'était dans le sud de la France. Qui s'appelle « Le froid et les ténèbres. Le monde après une guerre atomique. Le rapport de la conférence sur les conséquences biologiques d'un conflit nucléaire » par Paul Ehrlich et Carl Sagan. Et à préface de Lewis Thomas, qui avait écrit, qui est fameux, hein, je ne sais plus le nom des ouvrages qu'il a fait, mais C'est fantastique, hein, il a écrit un truc génial, quoi, sur les machines et tout. Hein. Et donc je m'en suis déjà servi, mais je ne sais plus quand. Il est de 1984. Donc Carl Sagan et François Sagan, il n'y a pas de parenté. Hein. Mais voilà. Donc je vais, voilà, ce qui est cool, c'est que je vais vous lire. Il y a des petites images. Je vais vous lire ce qui est écrit à côté des images. Ok? Alors la première image, bon, on faut aller dans un univers SF pour vous essayer de vous figurer un peu les images, à quoi elles ressemblent, illustrer les images. Donc là, il fait noir, plein de voitures avec les phares allumés ou éteints, les unes après les autres, un peu à la Walking Dead, tu vois. Ouais, voilà. Exode de la population des villes. Dans l'hémisphère nord, moins d'une semaine après une guerre nucléaire, la quantité de lumière solaire parvenant à la surface de la Terre pourrait se réduire à moins de 10% de la normale dans des secteurs très éloignés des cibles. Les citadins qui survivraient auraient à affronter un froid d'une extrême rigueur, manqueraient d'eau, de nourriture et de combustible, et subiraient des problèmes graves de rayonnement, de pollution et de santé. Ils tenteraient probablement de fuir les villes en quête de nourriture. Donc ça, c'est pour les mecs qui sont... rappelez-vous le Titanic, quoi. Les plus riches, ils allaient dans le bateau et puis ils s'en fichaient des femmes et des enfants. Et ben c'est pareil. Là, en fait, c'est eux qui seront dans le froid. Et nous, on s'en fout. Hein. Vu qu'on est les pauvres, ben on prendra la bombe et on mourra. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, conséquences pour l'agriculture. Alors là, il y a une photo, bon, un champ qui tout est mort. Les plantes et tout. Donc, conséquences pour l'agriculture. Je disais, une guerre qui aurait lieu au printemps ou en été détruirait ou détériorerait la quasi-totalité des récoltes de l'hémisphère nord à cause des températures glaciales. Alors, hémisphère nord, parce que à l'époque c'était la Russie et les États-Unis, hein, ben, ça se glissera vite, tel qu'il est écrit dans l'hémisphère sud, hein, par contre. Mais il parle du nord, parce que c'est là-bas que ça commencera. La faible luminosité bloquerait la photosynthèse, toutes les chaînes alimentaires seraient progressivement touchées, la plupart des animaux domestiques seraient ou tués ou très affaiblis par la radioactivité. Les survivants mourraient bientôt de soif car l'eau douce gèlerait. Donc ça veut dire qu'il fera quand même très froid. Hein. Déversement de produits chimiques. Donc là c'est la même chose, c'est au bord de l'eau. Bon, un peu comme ça pourrait être une photo prise là, sur nos fleuves, hein, avec plein de poubelles. Voilà. Donc, déversement de produits chimiques, les explosions nucléaires à proximité des villes mettraient le feu aux stocks de gaz et de pétrole et briseraient les réservoirs contenant des produits chimiques toxiques. Ces derniers se déverseraient dans les fleuves et les rivières, faisant périr les organismes aquatiques. Ce qui est déjà un peu le cas. Hein. Là, on est en plein géopolitique transnationale. Hein. Alors, le froid et les ténèbres. Alors là, maintenant, une autre photo. Donc là, bah, c'est des gens qui grelottent sous des parapluies avec un feu allumé. Pareil, en race campagne. Le froid et les ténèbres qui s'abattraient sur l'hémisphère nord à la suite d'une guerre nucléaire s'étendrait probablement aux zones tropicales et subtropicales, tant dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. La faune et la flore de ces régions seraient très sévèrement touchées. Les forêts tropicales ombrophiles, qui constituent une des grandes réserves vitales de la Terre, seraient très endommagées, voire entièrement détruites dans certains secteurs, comme en Amérique centrale par exemple. La population devrait errer en quête d'abri et de nourriture. Mais nous, comme je disais tout à l'heure, vu qu'on est les pauvres, on meurt tout de suite, quoi. Ce sera pour les plus riches, ça, mais... Voilà. Donc, photo suivante, enfin, image. Donc là, c'est la belle nature avec des ours et des canards. Alors, scène paisible d'une forêt du nord des États-Unis. Un castor vient de terminer sa digue. Deux ours fourragent dans les herbes. Un papillon bat des ailes au premier plan. Un martin pêcheur cherche un poisson. Un grèbe nage calmement. Voilà. Alors, image d'ensuite. Après une guerre nucléaire, l'eau douce gèlerait jusqu'à une profondeur considérable, détruisant toute nourriture. Les retombées radioactives anéantiraient les conifères. Ouais, c'est vrai que c'est plus de la même couleur. Ensuite, image suivante, les conifères. Les conifères, vous savez, c'est les sapins. Ouais, t'es con, mais on peut rien y faire. Ouais, on me l'a déjà fait aussi. Donc, les conifères morts et secs deviendraient très facilement la proie des grands incendies. Alright. Image suivante. Donc là, on... Bah oui, c'est un peu le même délire. Enfin, c'est un peu le même truc. Là c'est comme... Ça pourrait l'être aujourd'hui, comme ça. Il y a un siècle, c'était comme ça. Image de la mer dans des conditions normales. La coupe montre la vie marine à différentes profondeurs parmi les espèces que l'on distingue. Maquereaux, harengs, raies, aigles, thon, sébastes, calmars géants, baleines mégaptères, requins. Les hauts fonds de la plateforme continentale portent des coraux et des étoiles de mer. Dans le fond, un bateau de pêche, le minuscule plancton constitue une source de nourriture pour les différentes forme de vie marine. Tout va bien. Alors, par contre, image suivante. Alors, image de la mer après une guerre nucléaire. La coupe montre de qui l'est advenu du paysage marin. Par suite de l'obscurité et de l'interruption de la photosynthèse, le phytoplancton meurt rapidement. Les chaînes alimentaires sont détruites et la vie décline. Les produits toxiques et les boue provenant de la terre contamine les eaux littorales. La différence thermique entre les masses continentales très froides et les océans plus chauds produit des orages violents sur les côtes. Les ressources alimentaires de la mer disparaissent entièrement et le peu qui en reste devient très difficilement accessible. Donc dans la faute sur l'image, on voit les poissons morts, la baleine au fond du... Voilà. Alors, tel qu'il est écrit, tel que Elric l'écrit, mais nous connaissons déjà suffisamment de conséquences irréfutables pour comprendre qu'il est impératif au nom de l'humanité avec un grand H d'accélérer la recherche d'une sécurité mondiale d'ordre politique. En tant que citoyens de nos propres pays et en tant qu'habitants du vaisseau spatial Terre, nous devons impérativement imaginer et mettre en œuvre des moyens qui assureront un avenir à notre planète. À tous les pragmatistes, aux poètes, aux saints et aux soldats, et en fait, à tout être vivant et sensible. La barge russe, tout.